à tous. Dans l'actualité des idées aujourd'hui, le « Où en sommes-nous » d'Emmanuel Todd, l'historien et démographe, apporte son éclairage sur ce moment inégalitaire de l'histoire humaine, cet âge de la régression qui a fait basculer nos démocraties dans la crise, le pourquoi du comment à retrouver à partir de 12h55. Mais d'abord, un roman de guerre qui nous fait voyager du Vietnam à la Californie par le Pulitzer 2016, Vientiane Nguyen, roman enfin traduit en français par les éditions Belfond. Ni martyr, ni héros, le sympathisant par le roman prend en compte les positions des deux camps et ce faisant réécrit l'histoire, fin et implacable, à écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard sur franceculture.fr.
Grande table. Olivia Jesbert.
Écrivain vietnamien américain, comme vous dites, enfant de la guerre, né au Sud-Vietnam en 1971, aujourd'hui professeur de théorie littéraire à l'Université de Caroline du Sud, Vientiane Nguyen, est devenu écrivain confirmé en un roman, son premier roman, prix Pulitzer de la fiction en 2016, Le Graal, et prix aussi Edgar Allan Poe du meilleur roman pour Le Sympathisant, enfin traduit en français chez Belfond. 13 refus avant d'être enfin accepté par un éditeur américain, ça c'est pour la légende. Vientiane Nguyen, bonjour.
Thank you for having me.
Thank you to be there. Un Pulitzer, c'est une formidable caisse de résonance pour un écrivain, surtout pour un premier roman.
It's really an amazing prize to get and a complete surprise
as well.
Oui,
c'est un prix tout à fait incroyable à avoir. C'est aussi une grande surprise pour moi. Je ne m'attendais pas à l'avoir, mais ça a été un grand plaisir de voir que ce roman, qui est ma tentative d'essayer de raconter en fait cette histoire, avoir un peu plus de visibilité.
À travers la figure du narrateur, un bâtard, ce demi-citron, mère vietnamienne, père prêtre français, infiltré dans les troupes sud-vietnamiennes pro-américaines, taupe des Vietcong, vous nous donnez à lire une autre histoire de la guerre vietnamienne, hein, des forces en présence, sans réécrire pour autant les faits, ce qui s'est passé, vous donnez aux oubliés de ce conflit une visibilité nouvelle en rompant avec le récit national américain. Fait prisonnier dans les geôles vietnamiennes après-guerre, le narrateur raconte sa vie et ses engagements, son rôle de sympathisant, comment il organisait la fuite de certains dirigeants pour mieux les espionner, les coups aussi qu'il fomente des États-Unis, son exil, sa révolution, son retour au pays. C'est un roman d'espionnage et c'est aussi un roman politique, peut-être malgré vous. Est-ce que ce roman, il a été écrit en réaction? C'est-à-dire, est-ce que ce livre est né d'une nécessité intime ou aussi d'un souci de faire œuvre de mémoire pour vous?
Alors, vous savez, j'ai grandi aux États-Unis en étant très très conscient de la manière dont les Américains se souvenaient de cette guerre. Effectivement, c'était un souvenir central dans l'expérience américaine et il s'agissait de... Les Vietnamiens étaient seulement en fait une espèce de toile de fond et ça c'était vraiment très très problématique. Il y a eu 3 millions de Vietnamiens qui sont morts pendant cette guerre et ça me semblait une injustice que notre histoire vraiment ne soit qu'une toile de fond par rapport à l'expérience américaine. Et c'est pourquoi, en fait, cette version américaine de l'expérience était importante, parce que c'est comme ça que le reste du monde allait voir donc l'histoire de cette guerre en raison de la puissance des Américains. On avait Apocalypse Now, il y avait d'autres films américains, hein, mais on n'avait jamais vu un film vietnamien, on n'avait jamais lu un livre vietnamien. Et donc, on avait en général dans le monde aucune expérience des vues que pouvaient avoir les Américains sur les Vietnamiens sur cette guerre.
De manière un peu manichéenne, quels sont les principaux clichés avec lesquels vous avez grandi, représentation de cette guerre du Vietnam, qui étaient les méchants et les gentils, qui étaient les bourreaux et les victimes, qui a gagné, qui a perdu?
Alors, quand on regarde en fait ces films américains, quand on lit ces livres américains, évidemment, on voit bien que le plus grand stéréotype, c'était une guerre américaine, une espèce de guerre qui était en dehors du sol américain, mais qui avait divisé tout le pays. Et les Vietnamiens n'étaient là, en fait, dans ces récits que pour être sauvés, pour être tués, pour être sauver. Et si on avait quelque chose à dire, c'était tout simplement de dire merci aux Américains. Et j'ai trouvé que c'était une manière qui était simpliste de regarder le passé, et c'était qui continuait en fait à justifier l'histoire américaine. Et il y avait vraiment un besoin très important de contredire en fait cette version américaine.
Alors en quoi cette guerre, elle a été si particulière justement? Qu'est-ce qu'on ne dit jamais à son sujet?
Alors, je pense que ce qui n'est jamais dit à son sujet, c'est d'abord les expériences, en fait, pas seulement des Vietnamiens, mais des Cambodgiens, des Laotiens, en fait. Quand je parle de 3 millions de victimes vietnamiennes, quand on regarde ce qui s'est passé au Cambodge pendant la guerre et après, il y a effectivement aussi des Cambodgiens et des Laotiens, 3 millions également, qui sont morts en raison de cette guerre. Et je crois que la plupart des gens dans le monde ignoraient ceci.
Est-ce que les États-Unis ont depuis reconnu aussi leur responsabilité dans cette guerre Bourbier? Est-ce qu'il y a, à travers cette écriture, pour vous, de ce roman, le sentiment de prendre quand même un peu une revanche, peut-être moins sur l'histoire, mais sur la parole officielle?
Je pense qu'après la guerre, qu'on regarde les États-Unis, le Vietnam, le Laos ou le Cambodge, tous ces pays ont eu beaucoup de mal, en fait, à arriver à digérer cette histoire. Il y a toujours, les États-Unis, bien sûr, proposent toujours une vision de l'histoire qui les justifie. C'est aussi d'ailleurs ce que font que les Vietnamiens, toute personne qui se rend au Vietnam aujourd'hui, voit que la version du passé est celle des communistes. Et donc, finalement, les Américains ont la perspective des Vietnamiens du Sud. Donc, à chaque fois qu'on parle d'une tragédie, d'un conflit, d'une guerre comme celle-ci, c'est la tâche des écrivains de regarder les choses pour aller au-delà de la version officielle. Et quand un écrivain fait ça, d'une certaine manière, il va forcément offenser certaines personnes.
La guerre du Vietnam jusqu'ici, c'était des représentations, vous le disiez, assez figées. Celles véhiculées par le cinéma américain, Voyage au bout de l'enfer de Cimino, Full Metal Jacket de Kubrick, et puis surtout Apocalypse Now de Coppola, qui est sorti en 79, où l'art d'esthétiser la guerre.
C'est bon, ils sont en règle.
Bon, on va fouiller.
Ils ont rien du tout là-dedans.
Fouille, je t'ai dit.
Ils ont des paniers, des canards, des bananes.
Alors vérifie, chef. T'es malade ou quoi? Va fouiller cette jonque.
Du chèvre? Du poisson?
Chef!
Des paniers de légumes?
Fais ce que je te demande!
Y'a rien là-dedans!
C'est un ordre!
J'y vais! Couche-toi, connard! Couche-toi! Des cochons? Regarde, des mangues!
Qu'est-ce qu'il y a dans ce sac de riz?
Leur riz de merde!
Regarde dedans, chef, en dessous!
Poisson de merde! Encore des noix de coco? Du riz, toujours du riz. Qu'est-ce que tu veux qu'il y a d'autre?
Vérifie aussi ce panier.
Sors de là. Dehors, dépêche-toi. Allez, tire-toi.
Chef, je t'ai dit de regarder le panier de légumes.
J'ai entendu.
Ferme-la, salope.
Y'a un gars là-dedans.
Et dans les cartons?
Mais j'ai entendu, j'ai pas qu'à bras.
Et dans le bidon, regarde.
Y'a rien.
Celui qui est rouillé, là.
Encore du riz, putain, y'a rien
le
dans cette
jaune. Jaune. Va voir dans le bidon Colin. Jaune, elle était assise dessus.
Alors même en version française, vous me dites que vous parvenez immédiatement à reconnaître, à situer cet extrait dans le film Vientiane Nguyen. Vous l'avez vu combien de fois ce film? Et vous l'avez vu surtout à quel moment de votre vie?
Je crois que je ne sais plus vraiment combien de fois j'ai vu Apocalypse Now, mais la première fois où je l'ai vu, j'avais 10-11 ans et je l'ai regardé en vidéo, en fait. Hein. Et cette scène m'avait particulièrement traumatisée, en fait, parce que j'étais un petit garçon américain à l'époque qui adorait regarder les films de guerre américains et qui s'identifiait bien sûr avec les soldats américains. Et dans ce film, le problème, c'était que je m'identifiais avec les Américains et qu'en fait, ils tuaient des Vietnamiens et en même temps, j'étais aussi vietnamien, donc je me suis sentie complètement coupée en deux. Et ça m'a pris des décennies pour arriver à comprendre que c'était en fait pour moi une expérience très traumatique, la vision de ce film, et que c'était effectivement un témoignage de ces histoires qui traumatisaient les gens et qui pouvaient façonner aussi. Hein. Et où que j'aille dans le monde, les gens ont vu Apocalypse Now de Francis Ford Coppola, hein, et même ceux qui ont été opposés aux États-Unis et à la guerre du Vietnam, ils sont très critiques vis-à-vis des États-Unis, mais ils adorent Apocalypse Now. Ils voient des films comme celui-ci et ils ne reconnaissent pas l'absurdité d'être contre la guerre du Vietnam et en même temps de ne voir que la perspective américaine.
Hollywood, au détour d'une phrase, vous qualifiez dans votre roman de rampe de lancement du missile balistique international de l'américanisation. Vous dites: difficile pour un gamin de ne pas s'identifier, de ne pas adhérer à ces images et à ces discours. Vous nous dites aussi que vous étiez alors un petit garçon américain à l'époque. Aujourd'hui, vous êtes un adulte quoi ? Vous vous définiriez comment ?
Je me définis en fonction du contexte. Hein. L'identité, c'est quelque chose de très, très complexe. Hein. Quelquefois, je suis vietnamien, quelquefois, je suis américain, quelquefois, je suis américano-vietnamien, quelquefois, je suis juste un être humain. Et donc, ça dépend, en fait.
Ces représentations, vous en jouez dans Le Sympathisant, votre roman, quand votre héros est embauché comme consultant dans le tournage d'un film américain sur la guerre du Vietnam, tourné aux Philippines. Ce film s'appelle, ou devrait s'appeler, Le Sanctuaire. Il pense pouvoir améliorer l'image des Vietnamiens, mais au final, ils restent tous les Vietnamiens des sans noms. Ils figurent au générique à travers des indications totalement péjoratives. Vous l'évoquez, violeur 1, 2, 3, villageois désespéré, fille morte, garçon boiteux, officier corrompu, mendiant aveugle. On ne peut pas vraiment changer les choses de l'intérieur, c'est compliqué. C'est pour ça que vous avez choisi d'en faire un roman, avec cette liberté de l'écrivain qui consiste peut-être à n'être instrumentalisé par personne, y compris par ses propres préjugés.
Je pense que pour ceux d'entre nous qui appartiennent à des minorités, on nous demande très très souvent d'être l'expert en authenticité. Hein. Donc voilà, dans ce cas-là, mon héros est un expert en authenticité pour ce film américain qui est en train de se tourner. Et voilà, les gens souvent me demandent quel est le meilleur restaurant en ville. Et toujours, on a des opportunités comme ça qui sont très très étroites. On ne peut pas changer la conversation quand on nous demande comme ça de donner notre opinion juste pour être au service d'une culture dominante. Ce dont on a besoin, c'est deux choses. L'une d'entre elles, c'est écrire un roman en colère hein, qui conteste la culture dominante. Et en même temps, hein, je suis complètement conscient qu'un roman a un potentiel limité. Il faudrait pouvoir contrôler en fait les moyens de production pour arriver à avoir un véritable impact. Hein. C'est quelque chose que mon héros ne peut pas faire non plus puisque Hollywood ne lui appartient pas. Donc d'une certaine manière, si Hollywood ne nous appartient pas et si le monde de l'édition ne nous appartient pas, on sera toujours sujet à cette culture dominante. On ne pourra pas la changer.
Alors là, ce n'est pas un documentaire qui nous vient d'Hollywood mais qui est coproduit et diffusé sur Arte. En parallèle, il est diffusé aux États-Unis. Peut-être avez-vous été appelé pour à la rescousse, hein, en expert, pour être expert en authenticité, comme vous le disiez. Vietnam, c'est une série de documentaires en 9 épisodes qui sera diffusée à partir du 19 septembre sur Arte, réalisée par deux Américains, Ken Burns et Lynn Novick. Au même moment donc diffusée aux États-Unis, ces deux réalisateurs producteurs ont travaillé dessus pendant plus de 10 ans. Ils ont essayé d'écouter près d'une centaine de témoins, des Vietnamiens, des Américains, des civils, des militaires, pour raconter 30 ans de destruction, de bouleversement aussi. Et ils ont, disent-ils aussi, tenter de sortir de ce discours assez manichéen qu'on évoque depuis le début de l'émission, sans prendre parti. Ils disent avoir voulu faire entendre justement la pluralité des expériences et la complexité de cette histoire. La grande leçon pour eux, c'est cette perte de l'innocence américaine dans la place qu'elle occupait jusqu'ici dans le monde extrait.
À partir de 1970, notre adversaire sur le champ de bataille, c'était l'armée fantoche du sud du Vietnam. D'autres Vietnamiens. C'est ça, la tragédie. Les Vietnamiens se sont entretués. La puissance de feu était américaine, mais les soldats étaient vietnamiens.
C'était une guerre fratricide. On peut dire, oui, mais eux, c'était des communistes, les pires Vietnamiens qui soient. Nous, on était les bons Vietnamiens. Ça restait quand même des Vietnamiens tuant des Vietnamiens. C'est ça la réalité. Si ce n'est pas ça une guerre fratricide, alors qu'est-ce que c'est ? Comment est-ce que je peux expliquer ça à mes enfants ?
Vietnam, série documentaire de Ken Burns et Lynn Novick. Vous avez entendu parler, visionné des extraits de cette série, Viet Thanh Nguyen. On vous a appelé.
Alors, j'ai vu environ 45 minutes de ce documentaire hein, parce que j'ai rencontré Lynn Novick qui m'a demandé de voir dans leurs locaux quelques extraits. Hein. C'est un formidable documentaire et l'une des choses qu'il fait, à l'inverse de d'autres documentaires, c'est qu'il essaye de donner effectivement la parole aux Vietnamiens du Nord et du Sud. Et je crois que c'est quelque chose de très très important. Et ce documentaire essaie aussi de comprendre comment petit à petit on s'est avancé vers la réconciliation, et c'est un des aspects les plus importants de la guerre du Vietnam et de n'importe quelle guerre d'ailleurs. Et le minimum pour la réconciliation, c'est d'entendre différentes voix, différentes perspectives et différentes histoires. Mais je n'ai pas encore vu l'ensemble de la série documentaire.
Une Amérique coupée en deux, c'est ce que reflète aussi ce documentaire. Un Vietnam divisé, c'est ce que montre et raconte bien aussi votre roman, Le Sympathisant, Viet Thanh Nguyen. Vous êtes un enfant de réfugié vietnamien parti vers les États-Unis après la chute de Saïgon en 75. Et avec ce roman, vous explorez votre propre front intérieur. Il y a évidemment une part de vous dans ce roman, de votre histoire personnelle. Mais on a le sentiment que la part essentielle et plutôt dans la dualité de votre héros, double identité, double jeu et double sens hein, jusque dans l'écriture. Est-ce que ce dédoublement, c'est vraiment ce dédoublement qui est pour vous ce qui reflète le mieux votre personnalité, ce dédoublement qui est le sujet et la matière de ce roman ?
Oui, tout à fait. J'ai grandi aux États-Unis, tout à fait conscient que j'étais un réfugié vietnamien, mais aussi complètement conscient que j'étais bien un Américain, puisque c'était l'environnement dans lequel j'étais élevé. Donc j'ai toujours senti cette dualité en moi. Chez mes parents, j'étais un Américain qui espionnait mes parents, et puis à l'extérieur de la maison, j'étais un Vietnamien qui espionnait les Américains. Donc cette expérience d'être un espion, c'est quelque chose que j'ai pris et donné à un réel espion dans mon roman, que j'ai inventé comme étant à moitié français, à moitié vietnamien, de manière à ce que lui soit également toujours déchiré entre ces deux cultures et entre les luttes que se mènent ces deux cultures. Et ça, c'était très important pour moi.
Le racisme dont la diaspora vietnamienne fait l'objet est évoqué aussi dans votre roman. Je vous cite, en tant que non-blanc, c'est votre narrateur qui parle, en tant que non-blanc, il savait, comme moi, qu'il fallait être patient avec les blancs, lesquels étaient facilement effrayés par les non-blancs. Même avec des blancs progressistes, on ne pouvait aller trop loin. Avec des blancs moyens, on ne pouvait aller nulle part. Nous mangions leur nourriture, nous regardions leurs films, nous sondions leur vie et leurs âmes, nous étions les meilleurs ethnologues des Américains. Ceux qu'eux-mêmes n'ont jamais su parce que nos notes de terrain étaient rédigées dans notre propre langue, dit votre personnage. Les meilleurs ethnologues des Américains, c'est vous ça ?
Yeah, I think so.
Oui, je crois.
Je crois qu'en fait, c'est ce que je pense,
c'est que toute minorité dans n'importe quel pays doit adopter le mode de pensée de la majorité, et alors que la majorité ne doit pas faire ça, à l'inverse. Hein, ça veut dire que la majorité, elle a le privilège d'être de la majorité. Ici, si on parle des États-Unis, on parle donc de la blancheur de peau. Hein, donc ça veut dire d'une certaine manière que vous pouvez complètement vous couper des expériences des minorités qui sont autour de vous, mais les minorités, elles, n'ont jamais ce luxe-là.
Il y a ce rapport amour-haine, fascination, répulsion que vous entretenez peut-être, en tout cas que votre héros entretient à l'égard des États-Unis et qui est peut-être le propre de tout exilé. Vous vous rendez vraiment compte de cette ambivalence, souvent à travers des petits détails du quotidien, quand le narrateur fait par exemple l'inventaire de ce qui lui manquerait s'il ne pouvait plus retourner aux États-Unis. Je vous cite, je vous lis. Le dîner devant la télé, l'air conditionné, une circulation bien régulée que les automobilistes respectaient vraiment, le taux de mortalité par balle relativement faible, en tout cas par rapport à celui de notre pays, le roman moderniste, la liberté d'expression qui, quoique moins absolue que n'aimaient à le croire les Américains, était plus grande que dans notre pays, la libération sexuelle et peut-être plus que tout, cette drogue américaine omniprésente, l'optimisme dont le flot intarissable se déversait sans arrêt sur l'esprit américain, effaçant à grandes eaux les graffitis du désespoir, de colère, de haine et de nihilisme griffonnés nuitamment par les invisibles voyous de l'inconscient. Il y avait aussi beaucoup d'aspects de l'Amérique qui m'enchantaient moins. Mais pourquoi être négatif ? Midi 22 sur France Culture. Notre invité, Viet Thanh Nguyen, pour son roman phare, Le Sympathisant, prix Pulitzer 2016.
France Culture. La Grande Table. Olivia Jesbert.
Une relation d'amour-haine, de rejet et de fascination, cette schizophrénie, est-ce que vous la retrouvez aussi dans le Vietnam d'aujourd'hui, mi-capitaliste, mi-communiste, mi-nationaliste, mi-mondialisé? Est-ce qu'on y retrouve la même schizophrénie là-bas pour vous aujourd'hui, Viet Thanh Nguyen?
I think that it's true for me being
Je pense que c'est vrai pour moi qui suis un réfugié du Vietnam et qui a grandi en Amérique. Il y a toujours effectivement cette relation d'amour-haine, mais revenir au Vietnam pour moi a toujours été un désir, mais qui était difficile parce qu'il y a beaucoup de choses au Vietnam qui sont formidables, hein, l'hospitalité, les gens, la nourriture, mais il y a aussi des choses au Vietnam qui sont très difficiles par rapport à la corruption notamment, ou la difficulté d'intimité dans les relations familiales. Et le Vietnam, c'est un pays qui est en train de se transformer incroyablement économiquement et politiquement, donc ça amène de l'espoir et de l'optimisme, mais il y a aussi d'une certaine manière une véritable corruption. C'est un pays par exemple où il est impossible d'être un écrivain, donc voilà, on a cette relation amoureuse depuis 20 ans.
Et quand Barack Obama s'est rendu au Vietnam en 2016, quand il a été en déplacement là-bas avec une parole pacifique de réconciliation envers le peuple vietnamien et en apportant aussi les bonnes nouvelles d'une levée de l'embargo, il y a des sondages qui ont été réalisés qui montraient l'incroyable popularité des Américains, des États-Unis aujourd'hui au Vietnam. Et puis l'oubli pour la jeune génération, beaucoup ne savent pas vraiment ce qui s'est passé pendant la guerre. Je vous propose d'écouter la parole d'une romancière vietnamienne, dissidente politique, exilée et installée aujourd'hui en France, Duong Thu Huong, auteure de « Au-delà des illusions et des paradis aveugles ».
Sứ sở của tôi nó không phải là sứ sở thần tiên, đó là một nơi nghèo khổ, bụi bặm.
Mon pays n'est pas un pays de rêve ni un pays de fées, c'est un pays pauvre, sale.
Một dân chúng luôn luôn kém phát triển và thiếu may mắn trong lịch sử.
Un peuple malheureux et malchanceux.
Và tôi coi như dân tộc của tôi là dân tộc lỡ tàu.
Et pour moi, je considère que mon peuple est un peuple qui a raté son train quelque part.
Nhưng vì tôi là thuộc về nó cho nên tôi vẫn phải yêu nó. Và tôi vừa yêu dân tộc của tôi vừa ghét dân tộc của tôi.
Mais je fais partie de ce peuple. Alors, je l'aime beaucoup. Mais je suis partagé, c'est-à-dire que dans cet amour, il y a aussi de la haine.
Voilà, l'amour, la haine, on y revient une fois encore, Vietan Nguyen. Vous pensez aussi que vous, ce peuple a loupé son train quelque part, vous le diriez de cette manière-là?
Well, yeah, I mean, that writer, Yung Tu-hung, is a writer I admire a lot.
Oui, j'admire beaucoup cet écrivain, Yung Tu-hook. Et effectivement, elle insiste sur un certain nombre de situations comme moi, hein, parce qu'on est vietnamien, mais on a vraiment le sentiment que, d'une certaine manière, le Vietnam a pris une mauvaise route. Hein. Elle s'est battue pendant la guerre, elle était communiste, et puis ensuite, elle a perdu ses illusions et elle a quitté le Vietnam en exil. Et elle croit que la révolution communiste a échoué. C'est aussi quelque chose que je crois, hein, par rapport à son contenu idéologique. Et c'est ça, d'une certaine manière, manquer le train. Mais je crois qu'on a encore une chance de monter dans ce train.
À Avignon, cet été, Saïgon, la pièce de la franco-vietnamienne Caroline Guéla Nguyen, qui sera d'ailleurs à l'affiche du Théâtre de l'Odéon à Paris en janvier prochain, est revenue sur la question des silences, les silences des familles déchirées par l'exil. Chez vous, on a le sentiment que la transmission a peut-être un peu mieux fonctionné, mais peut-être à tort. Est-ce que vous diriez qu'écrire ce roman, c'était une manière pour vous de partir un peu à la pêche aux infos, qui avait une envie d'éclairer les non-dits, ou est-ce que cette transmission s'est faite dans votre famille ?
Well, you know, I think my parents had told me certain kinds of stories about
the war. Je pense que mes parents m'avaient raconté un certain nombre de choses sur la guerre, un certain nombre de récits, mais ils racontaient que ce qu'ils voulaient bien dire, hein. Donc il y avait beaucoup de trous et beaucoup de silence dans notre famille. Ce qui est bien, je crois, pour un écrivain, hein, parce qu'il y a ce sens de l'ignorance de notre passé qui permet d'inventer des histoires sur ce qui a eu lieu. Mes parents vont-ils lire mon livre ? Ça, je ne le sais pas.
Vietnam Nguyen, l'historien, démographe, anthropologue Emmanuel Todd, invité de la deuxième partie de l'émission, nous a rejoint dans ce studio, auteur en ce moment de Où en sommes-nous ? Une esquisse de l'histoire humaine qui paraît au seuil. Mais Emmanuel Todd, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes aussi l'auteur en 2002 d'Après l'Empire, essai sur la décomposition du système américain chez Gallimard, dont on ne va pas parler là tout de suite. Mais on se rend compte à travers des livres comme celui de Vietnam Nguyen qui a une mémoire, et notamment une mémoire comme celle de la guerre du Vietnam qui est en train de refaire jour aujourd'hui avec d'autres lectures. Est-ce qu'il faut parfois laisser passer autant de temps, 40 ans, pour qu'on arrive à poser un autre regard sur des événements qui ont été aussi fondateurs et traumatiques à la fois ?
Oui, dans l'histoire des familles certainement. Et puis d'ailleurs, on a vécu des processus du même genre, de prise de conscience avec retard, après la libération en France. Mais dans les familles, je suis plus spécialiste des structures familiales que de la guerre du Vietnam. Même si mon père a couvert la guerre du Vietnam en tant que grand reporter et que j'ai vécu en tant qu'adolescent à l'ombre distante de la guerre du Vietnam, c'est ce qui est tout à fait fascinant. Enfin, je suis fasciné par les phénomènes de persistance de mémoire familiale. C'est-à-dire que même dans ma propre famille, je ne dis pas ça par narcissisme, c'est complètement technique, hein. Bon, une partie de ma famille est d'origine anglaise, juive. D'un autre côté, moi, je pensais que j'étais arrivé... je suis natif de Saint-Germain-en-Laye. Je pensais que c'était fini, les mouvements. Puis je me retrouve avec un fils aîné qui vit en Angleterre, qui a j'ai des petits-fils britanniques, et un truc a réémergé. Donc, en fait, le genre de sujet dont vous traitez, le cas du Vietnam est beaucoup plus dramatique. Hein, je ne suis pas fou. Ça fait partie. Je pourrais lire son livre. Je vais
mais
peut-être
vous devez
le
lire son livre.
J'ai dû regarder pour venir, mais je le lirai. Oui.
Voilà,
oui.
C'est un livre sur la persistance, ouais, comme ouais. Vous dites. Merci beaucoup à vous, Vietnam Nguyen, d'avoir été dans notre émission. Le sympathisant, un roman. Pulitzer 2016, je le disais, enfin traduit en français chez Belfond, traduit de l'anglais par Clément Baude dans le texte. Et aujourd'hui, c'est Pascal Fougère qui était votre voix. Un grand merci à tous les deux. Emmanuel Todd, vous restez avec nous. Rendez-vous à 12h55 pour la deuxième partie de La Grande Table pour revenir sur votre essai, enquête, travail, où en sommes-nous ? Pour l'heure, il est 12h30 sur France Culture.